L'ascension fait un événement pour le moins curieux. Cette histoire de Jésus qui monte comme cela au ciel pour être caché par un nuage est quand même assez bizarre pour un esprit moderne. Et je connais un bon nombre de pasteurs de la génération qui m'ont précédé qui refusaient systématiquement de prêcher le jour de l'ascension en considérant qu'ils n'en avaient rien à en dire. Parce qu'en effet, qu'est-ce que l'on peut en dire ? Historiquement, matériellement, on ne voit quand même pas très bien le corps physique de Jésus s'élever au ciel comme une fusée, ce qui aurait dû être le cas si l'on croit à la résurrection corporelle de Jésus. Parce qu'en effet, c'est bien là le problème. Si on croit à la résurrection corporelle, matérielle de Jésus, alors, comme on dirait dans le mystère de la chambre jaune, il y a un corps de trop. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de ce corps du Jésus ressuscité ? Alors, comme on ne peut pas le faire mourir une deuxième fois, et comme apparemment Jésus ressuscité ne continue pas de se promener dans nos rues pour serrer la main, je dirais, à ses fidèles, eh bien, il faut faire disparaître ce corps, d'où cette doctrine, effectivement, de l'ascension, qui est une façon d'essayer de dire que le corps de Jésus, au bout d'un certain nombre de temps, mettons au bout de 40 jours, disparaît en montant au ciel. Alors, étant donné que le sens, effectivement, historique, pour tout vous dire, me semble quand même difficile, il semble à peu près évident qu'il faut voir cela autrement. Et en tout cas, pour l'ascension, considérer qu'il s'agit là d'un événement spirituel. Parce que je crois que c'est une erreur que de vouloir appliquer à la Bible une lecture positiviste, si vous voulez, c'est-à-dire comme si l'Écriture avait eu des objectifs journalistiques d'expliquer ce qui s'était passé matériellement. Aujourd'hui, les théologiens ont compris qu'il ne faut pas lire le Nouveau Testament de cette manière-là, mais qu'il faut lire le Nouveau Testament d'une façon spirituelle, c'est-à-dire que le sens de ces récits n'est pas historique, mais qu'il est théologique. Alors bon, dont acte. Quelle signification théologique pouvons-nous trouver au récit de l'ascension en jetant un voile pudique sur ce qui a pu se passer matériellement et concrètement ? Vous pouvez y croire ou ne pas y croire, cela, je crois, n'a pas grande importance. La signification n'est pas très complexe, parce qu'en effet, on nous dit que Jésus est monté au ciel. Mais même les petits-enfants de l'école biblique savent que dans la Bible, le mot « ciel » ne désigne pas un espace géographique, mais désigne le domaine du spirituel, par opposition à la terre, qui est le domaine du matériel. Et je vous disais que les petits-enfants l'apprennent très tôt, je ne sais pas moi, vers 5-6 ans. Quand on leur dit avant que leur grand-père est mort et qu'il est au ciel, ils s'imaginent que si on fait un voyage en avion, on va peut-être le rencontrer derrière un nuage. Et vers 6 ans, ils comprennent que si on leur dit que leur grand-père est au ciel, eh bien, cela ne veut pas dire qu'il est derrière un nuage et qu'on ne va pas le rencontrer en prenant un voyage en avion, mais qu'il est dans une autre sphère, en quelque sorte. C'est-à-dire que leur grand-père n'est plus visible matériellement, qu'il n'a plus de présence physique, mais que cela ne l'empêche pas d'être vivant et d'être présent d'une autre manière, c'est-à-dire en esprit, c'est-à-dire dans le cœur de ceux qui l'ont aimé, dans le souvenir de ceux qui l'ont connu, et en esprit, et je dirais d'une façon donc immatérielle et invisible. Alors je crois que les chrétiens sont invités à ne pas être plus bêtes que les enfants de 6 ans. Et quand la Bible nous dit que Jésus est monté au ciel, je ne pense pas que l'on soit obligé de le concevoir comme une sorte de théologie, je dirais, interplanétaire, mais de comprendre qu'il s'agit d'une façon de parler. Et que quand on nous dit que le Christ ressuscité est monté au ciel, cela veut dire qu'il passe dans le domaine du spirituel. C'est la même chose quand on dit « Notre Père qui est aux cieux ». Il est évident que ce n'est pas non plus une affirmation géographique du lieu où l'on pourrait rencontrer Dieu. Mais notre Père qui es aux cieux, c'est l'affirmation que l'objet de notre foi, c'est-à-dire Dieu lui-même, n'est dans rien de ce qui est matériel, dans rien de ce qui est dans ce monde, mais que ce qui dirige notre vie, c'est une réalité spirituelle, intangible et invisible. Alors ainsi, dans ces catégories, nous pouvons comprendre effectivement le message de l'ascension. Et je crois que c'était une nécessité essentiellement pour les disciples. Parce que eux, ils avaient vécu avec le Jésus concret, si vous voulez. Jésus, c'était pour eux non seulement le Messie et le Sauveur, mais c'était aussi un compagnon, c'était leur ami, c'est celui avec lequel ils avaient vécu un certain nombre d'années. Et donc, quand Jésus est mort, ils ont perdu, si vous voulez, un compagnon concret. Et il leur fallait donc arriver à considérer Jésus non plus seulement comme un bon souvenir, mais comme un objet de foi, c'est-à-dire, dirais-je, comme Dieu lui-même. Alors pour nous, on peut dire que comme nous n'avons pas connu le Christ historique, ce travail est moins important. Nous n'avons peut-être pas besoin de l'ascension qui nous dit, voilà, il faut passer d'un Jésus concret, matériel et terrestre à un Jésus spirituel. Et nous n'avons pas de gros efforts à faire pour considérer que Jésus ne doit pas être vu comme un événement, comme un personnage historique, mais plutôt comme un objet de foi. Mais encore, c'est à voir. C'est à voir parce que je crois que nous sommes nous aussi menacés par, je dirais, une conception trop matérialiste du Christ. Et cela de deux manières. D'abord, petite expérience pastorale. Quand des couples demandent à être mariés et que je les prépare au mariage, je leur demande de lire un évangile et de me donner leurs opinions à ce sujet. Il arrive de temps en temps que certains futurs jeunes mariés me disent, après avoir lu l'évangile, qu'ils ne trouvent pas Jésus sympathique. Ils disent, oui, il n'est pas sympathique cet homme-là, il est trop dur avec ses contemporains, il est désagréable, il est prétentieux, il est orgueilleux, il est violent verbalement avec les pharisiens qu'il insulte publiquement, il est pédant, il manque d'humour, il est cynique. Enfin, parfois c'est vrai que certains me sortent des tas de choses comme ça sur le Christ, et les premières fois j'ai été désarçonné. Tout simplement parce que je ne m'étais jamais posé la question de savoir si Jésus était sympathique ou non. Et je crois justement que ça n'est pas la question. Et l'ascension nous rappelle cela. Jésus, ce n'est pas un personnage historique qui serait une sorte de modèle humain, si vous voulez, d'exemple, d'archétype de la personne bien comme il faut. Mais Jésus, il est pour nous chrétiens la parole incarnée. Et donc ce qui m'intéresse dans le Christ, c'est son évangile, c'est la signification de son message et de sa vie. Ce n'est pas sa personnalité. C'est-à-dire que je ne regarde pas au Jésus terrestre. Le Jésus historique, je m'en fiche. D'ailleurs, c'est un grand mystère de l'histoire. Qu'a fait Jésus jusqu'à 30 ans ? Alors certains disent, il est allé en Inde, il est allé en Égypte, il a été charpentier, il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Certains se demandent s'il avait des frères, s'il a été marié, s'il a eu des enfants. Certains même se disent, mais peut-être qu'il était homosexuel. Mais qu'est-ce que ça peut faire ? Rien du tout. Jésus, il n'est pas sur terre, il est au ciel. Et le Jésus de notre foi n'est pas, je dirais, de l'ordre matériel. Donc nous ne cherchons pas en Jésus, je dirais, l'exemple même du gendre idéal. Jésus n'a pas à être un personnage sympathique. Jésus n'a pas à être un personnage historique exemplaire. Jésus, il est l'incarnation même de la parole et il est, dirais-je, un objet de foi et non pas un objet d'étude historique. Premier message de l'ascension, voyez-vous, qui nous est donc donné. Deuxièmement, je crois que ce message de l'ascension, donc de voir que Jésus, de passer du Jésus terrestre au Jésus céleste, est très important parce qu'il y a toujours pour les chrétiens la tentation d'en rester au Jésus de la terre. c'est-à-dire la tentation de faire de l'Évangile une lecture terrestre et matérialiste, en prenant tous les récits de l'Évangile comme des récits historiques. Et cela, je crois, conduit à des résultats calamiteux pour la foi. Résultats d'ailleurs qui peuvent être opposés. Ça peut aller dans un sens de la critique. Si effectivement on en reste à une lecture non théologique, non spirituelle de l'Évangile, si on en reste à une lecture, dirais-je, fondamentaliste, historique, matérialiste, journalistique de l'Évangile, alors l'Évangile devient très problématique. Et on trouve à ce moment-là un certain nombre de gens qui vont nous dire « Je ne peux pas croire que Jésus ait marché sur l'eau. Je ne peux pas croire qu'il ait ressuscité Lazare ou des morts. Je ne peux pas croire qu'il ait multiplié des pains. Parce que pour multiplier de la matière, il faut de l'énergie. E égale mc2, ça fait beaucoup d'énergie. Je ne peux pas croire qu'il soit né d'une vierge. Parce que ça n'est pas possible. D'où viendrait le chromosome Y ? Et par conséquent, on en conclut que je ne peux pas croire en Christ et que toutes ces histoires de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, sont des ramassis de contes et légendes orientales ou de, d'histoires pour bonnes femmes. Deuxième danger serait le contraire, de ne pas avoir de lecture critique et autrement, de tout lire au pied de la lettre et de dire « voilà ». Le sens de l'Évangile, c'est ça. C'est que, eh bien, quelqu'un peut naître d'une vierge. On en fait peu d'usage aujourd'hui. Mais de dire, voilà, Jésus peut guérir les aveugles. Jésus peut marcher sur l'eau. Jésus peut ressusciter. Jésus peut remettre debout des paralytiques. Et à ce moment-là, de faire de cette lecture, je dirais, matérialiste, le fondement de sa foi. Et je pense que ça, c'est aussi dangereux. Parce qu'aujourd'hui, celui qui croirait à l'Évangile de cette manière-là serait condamné, je crois, à de graves désillusions. Parce qu'en effet, les naufragés du Titanic croyaient en Dieu, et ce n'est pas parce qu'ils ont chanté « Plus près de toi, mon Dieu » sur le Titanic qu'il y en a eu un seul qui ait marché sur l'eau, comme Pierre, pour être sauvé. Ils sont, évidemment, tous ceux qui étaient dans l'eau sont morts, noyés. Alors où était Dieu ? Et on pourrait continuer comme cela. Peut-on croire vraiment qu'aujourd'hui, il faille, si l'on est malade, aller voir un pasteur ou un prêtre plutôt que d'aller voir un médecin ? Peut-on croire aujourd'hui que si le tiers-monde a faim, plutôt que d'organiser une aide humanitaire, il suffit de leur mettre des prières sur des bouts de papier et qu'ils demandent à Dieu de multiplier les sacs de riz, les pains ou je ne sais quoi ? Peut-on croire que s'il y a des gens malades, plutôt que de faire de la recherche pour les maladies, pour la mucoviscidose, le cancer, le sida, il suffirait de prier Dieu qu'il guérisse tout ça lui-même. Eh bien, justement, je ne crois pas. Je pense que toute cette théologie qui viserait à croire que la bonne nouvelle de l'Évangile serait encore aujourd'hui une action terrestre du Christ dans le monde, je pense que c'est une impasse. Et que le message de l'Ascension, justement, nous met le doigt dessus en disant « Attention, Jésus est vivant, il est ressuscité, mais il n'est plus sur terre, il est dans le ciel. » C'est-à-dire qu'il est dans le domaine du spirituel. Et en effet, dans les deux cas que j'ai cités, l'erreur, c'est de lire l'Évangile comme s'il nous parlait de choses d'en bas. Mais l'Évangile ne nous parle pas des choses d'en bas, mais d'en haut. Et le Christ, son histoire, l'Évangile et tout cela, doit être élevé au ciel avec l'ascension, doit être monté à Dieu. Et donc je crois que tout l'Évangile doit être relu, non pas comme une histoire terrestre, mais comme une histoire spirituelle. Le Christ, qui est l'objet de notre foi, n'est pas sur terre, il est au ciel. Alors ne cherchez pas les pains terrestres, ne cherchez pas l'aide de Dieu pour calmer les tempêtes maritimes, ne cherchez pas Dieu pour multiplier les casse-croûtes, ni Dieu pour guérir votre myopie. Dieu, il est au ciel, et Dieu, il agit dans le domaine du spirituel. Certes, Dieu nous nourrit, mais il nous nourrit de son amour, pour la vie éternelle. Certes, Dieu nous guérit les yeux, mais il nous ouvre nos yeux pour voir l'invisible, les yeux du cœur. Certes, Dieu nous donne la lumière, mais il nous donne la lumière, je dirais, qui ne se compte pas en kilowatts. Il nous sauve, effectivement, et Dieu est notre rocher dans toutes les tempêtes de l'existence, mais peut-être pas dans les tempêtes maritimes, dans les tempêtes intérieures. Alors cela pourrait sembler une réduction du message, mais je crois au contraire que c'est une multiplication par l'infini de la puissance du message de l'Évangile. Sinon, le Christ ne reste qu'une sorte d'objet de superstition moderne. Et ce qu'il nous offre ne serait que limité dans le temps et l'espace. Je pense au contraire que si le Christ est au ciel, son salut est beaucoup plus important. Le pain qu'il peut nous donner nous nourrit beaucoup plus que des plats de lentilles. La lumière qu'il peut nous donner est infiniment plus importante que celle de l'EDF. La paix qu'il peut nous donner est infiniment plus profonde et plus essentielle que la paix politique. Et la vie même qu'il nous donne est infiniment plus importante que la vie matérielle et concrète, qui aura de toute manière fin un jour. C'est déjà ce qu'il dit d'ailleurs, par exemple dans son dialogue avec la Samaritaine. Quand il dit, voilà, si tu croyais en moi, je te donnerais de l'eau et tu n'aurais plus besoin de puiser. Et la femme se dit, ce serait pratique de ne pas avoir à puiser de l'eau dans le puits. Mais Jésus, évidemment, parle d'autre chose, non pas de l'eau du puits, mais d'une eau qui vient du ciel et une eau qui peut jaillir dans son cœur jusque dans la vie éternelle. moins, pour notre plus grande joie et pour la joie du monde. Amen.